La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Torah expliquée. Je vous en rappelle rapidement le principe. Benjamin Wagner, journaliste protestant, pose des questions sur la Torah auquel répond Guy Attia, directeur du Berger d'Israël.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission La Torah expliquée. Je suis, comme il y a 2 semaines, en compagnie de Guy Attia. Bonjour.
Bonjour.
Donc on vous a expliqué déjà quel est le principe de cette émission. On va le rappeler rapidement. Il s'agit de poser un regard à la fois dénué de toutes les idées reçues que l'on peut avoir sur la Bible et puis également de porter un regard juif sur ces différentes paroles que l'on peut trouver dans la Bible. C'est le postulat de cette émission. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec l'analyse d'un premier texte qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 3, au verset 14 et 15. C'est le texte que vous allez nous lire maintenant, Guy Attia.
L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
Alors là, on est au tout début de la Bible. Et déjà, Dieu s'adresse à la fois à l'humanité et au serpent, et déjà, il annonce un avenir plutôt sombre.
Il annonce un avenir un peu sombre, on peut dire, aussi bien pour le premier couple humain que pour le serpent d'ailleurs. Mais en réalité, le texte d'abord pose plusieurs questions au lecteur. Et la première qui peut se poser, c'est celle de l'historicité du texte, ou au contraire, d'un texte qui a une vocation plus allégorique, pour parler de tel ou tel sujet, mais sous forme imagée. D'autant plus qu'ici, nous sommes dans un contexte après donc, la création du monde et de l'humanité, et de cette chute, de cette désobéissance du premier couple humain. Et là, on arrive à, finalement, le décret de Dieu, les conséquences suite à cette désobéissance, et à la fois contre, enfin, en ce qui concerne l'humanité, et puis d'autre part, en ce qui concerne le serpent. Les paroles divines ici sont, à mon avis, davantage comme un poteau indicateur ou des poteaux indicateurs orientant le lecteur de la Bible pour essayer de découvrir finalement l'identité du Rédempteur que ici, dans notre verset, Dieu annonce de façon prophétique. Il n'y a donc aucune parole finalement superflue, il y a simplement un message concret et clair de ce que Dieu a l'intention de faire pour ramener finalement l'humanité dans la félicité du jardin d'Éden, du Gan Éden. Et donc ça me semble être le premier élément fondamental, au-delà du débat que l'on peut avoir, que ce soit dans le monde chrétien, mais aussi en grande partie aussi dans le monde juif, au sujet de l'historicité ou du caractère allégorique de ce texte.
Ce qu'on trouve là, dans le tout début de la Bible, c'est déjà l'annonciation de tout le plan, tout ce qui va être mis en place et qui va être raconté dans les livres suivants.
Ah, ici, effectivement, on n'a pas simplement une anecdote, quelque chose qui raconte un événement ponctuel, mais on a vraiment une annonce sur un futur, ce que Dieu a l'intention de faire dans un futur en ce qui concerne finalement la réponse de Dieu à une désobéissance. Conséquence pour l'homme, conséquence pour le serpent. La question qui peut peut-être se poser, c'est qui est donc ce serpent ? Ici, il est associé au bétail, aux animaux des champs, ce que nous ne ferions peut-être pas aujourd'hui, mais donc le serpent a un caractère plus familier pour le premier couple humain. Adam et Ève s'adressent au serpent comme ils s'adresseraient d'ailleurs à n'importe quel autre individu, chose qu'il ne fait pas d'ailleurs avec le genre animal. On a dans les commentateurs juifs comme chrétiens l'idée claire que le serpent incarne l'adversaire, le diable, qui s'est révolté contre Dieu. Et ici, à la différence d'Adam et Ève, Dieu s'adresse au serpent sans j'allais dire sans fioriture, il le condamne directement et immédiatement. Il y a ce conflit qui est évoqué et annoncé dès à présent et jusque dans le monde futur, enfin dans le futur plutôt, entre la descendance de l'homme, la descendance de Ève, pardon, et la descendance du serpent.
Comment est-ce qu'on doit interpréter cette notion de descendance du serpent ?
Alors, ce n'est pas seulement la descendance du serpent, d'ailleurs, mais aussi la descendance de la femme qu'il faut comprendre. Nous avons cette ambiguïté, cette complexité un petit peu de comprendre pourquoi une descendance de la femme. Alors que dans toute l'Écriture, quand on parle des descendances, on parle des descendances à travers l'homme et non pas la femme. Donc je pense qu'il y a quelque part, et ici c'est très, très visible, l'idée d'un signe, l'idée de quelque chose de singulier, de particulier. On retrouvera beaucoup plus tard, par le prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, et l'idée d'un signe à travers la descendance d'une femme. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Mais à l'état actuel, au moment de la Genèse, on n'a pas cette compréhension-là, mais on a cette idée quand même que bon, c'est à travers la femme que va naître un rédempteur. Et ce rédempteur va être opposé au diable, à sa descendance. Alors, il ne s'agit pas d'un autre serpent. Il s'agit toujours du même adversaire, et on le comprend très bien, mais simplement sa pérennité et le fait même que son action, l'action du diable, va se prolonger dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à ce qu'il soit vaincu par le Rédempteur promis.
Et comment est-ce que Ève, la femme, elle, va interpréter cette parole de Dieu ?
Alors c'est intéressant de voir que, justement, c'est ce qui est intéressant, nous avons certes le recul, et on peut avoir imaginé toutes sortes d'interprétations pour comprendre le sens de ce texte, parce que nous avons le recul de l'histoire. Mais Ève ne l'a pas, ni Adam d'ailleurs, dont on ne parle pas ici dans le texte directement. Ève, elle a une compréhension immédiate. Elle s'imagine que finalement, et ça c'est dans la pensée juive, on pense que Ève, elle croyait que ce rédempteur viendrait très rapidement. Il ne faut pas oublier non plus que même quand on parle de la mort de l'un ou de l'autre, cette notion de mort qui pour nous est familière, pour Adam et Ève, elle est totalement inconnue. Et donc Ève pense que le Rédempteur qui est promis par Dieu va venir à travers sa propre descendance à elle, c'est-à-dire son propre fils, le premier qui naît, c'est-à-dire Caïn. Nous avons généralement dans nos traductions françaises, dans chapitre 4, verset 1, l'idée que Dieu a, ou Ève plutôt, qui s'exclame après la naissance de Caïn en disant « J'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel ». C'est généralement les traductions que nous avons en français. Mais en réalité, en hébreu, nous avons l'expression « Kaniti ish et Adonai », qui a un sens vraiment plus direct, plus fort que simplement une aide que l'Éternel aurait apportée pour que Ève puisse avoir un enfant. Quand bien même ce serait le premier qu'il faudrait un peu d'aide. Mais ici, c'est un sens bien différent. La préposition « et » signifie « avec l'Éternel ». Et dans les traductions en hébreu, nous avons vraiment cette idée que c'est avec Dieu que Ève a eu un enfant. Alors ça peut paraître un peu choquant, voire vraiment très surprenant de voir en hébreu cette expression-là. Alors souvent, c'est pour ça que peut-être que certains traducteurs ont essayé de contourner un peu l'obstacle en se disant « Non, ce n'est pas Dieu qui a fait un enfant avec Ève, ça paraît un peu totalement fou. » Mais ici se pose la question sur le fond pour le monde juif de la nature de ce Rédempteur. Alors on comprend bien que si c'est un enfant de Ève, c'est un humain, c'est un être humain. Mais il a peut-être une nature un peu différente. Et là, il y a donc débat chez les Juifs sur la nature de ce Rédempteur. Donc on a là vraiment une question de fond qui peut se poser. Mais ici, au-delà de cette nature de ce Rédempteur, Ève d'ailleurs, qui croyait que c'était Caïn, au bout du compte, va vite se rendre compte que ce n'est pas Caïn, quand Caïn va tuer son frère. Et donc, on va voir que ce n'est pas tout à fait la vocation de l'homme de tuer son frère. Donc on a ici cette question de fond qui est finalement quelle est la nature de ce Rédempteur, à quel moment il doit venir et quelle doit être sa mission. Et puis, on a effectivement, pour le monde juif, cette idée, mais finalement, comment va s'accomplir cette rédemption ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette première parole prophétique qui est apportée par Dieu ?
Alors, au-delà de tous les débats très théologique qu'il peut y avoir autour de la nature du texte, historique ou pas, de la nature de ce rédempteur qui est annoncé. Et l'idée de fond, et je pense que c'est la première chose qu'il nous faut retenir, avant de poursuivre dans d'autres passages prophétiques et messianiques relatifs à l'annonce de cette venue du Messie, c'est de saisir que Dieu ne laisse pas tomber l'humanité, mais qu'il a un projet de salut, de ramener le salut à cette humanité qui a déçu, si je puis dire, et déchu aussi, et qui a besoin d'être rachetée, d'être ramenée dans le Gan Eden, dans le Jardin d'Éden. Et que ce Messie va être confronté en permanence face à l'adversaire, le serpent, pour finalement le vaincre, mais le vaincre, j'allais dire, dans la douleur, dans la souffrance, puisque ce serpent doit lui mordre le talon, et en même temps, le serpent être vaincu en étant écrasé par ce Messie.
Alors, comme on est dans une émission où on a dit qu'on allait essayer de faire tomber un petit peu les idées reçues, simplement, pour finir, là, on pourrait objecter quand même que c'est une vision de ce texte très chrétienne, en l'occurrence.
Alors, la perception chrétienne, la vision chrétienne, c'est d'abord de lire les choses ou le texte biblique a posteriori. Et de se dire, tiens, voilà, moi je crois que Jésus est le Messie, et de ce fait, je vais chercher dans l'Écriture, et ici dans ce texte en particulier, à confirmer ce en quoi je crois déjà. Je pense que quelque part, il nous faut inverser le sens de compréhension des choses. Nous devons lire, à mon sens, le texte biblique, non pas en se disant, tiens, c'est absolument clair que le texte parle de Yeshua, de Jésus, et essayer de faire coller, si je puis dire, la prophétie à ce que je crois, mais plutôt de faire l'inverse, c'est de se dire que Dieu a un plan pour révéler qui est son Messie de manière progressive. Ce premier texte n'est peut-être pas le plus clair, et on ne donne pas ni le nom du Messie, ni exactement tous les détails relatifs à la manière dont il doit venir et également à sa mission. Mais on a là un premier pas, un premier jalon qui nous permet d'aller plus loin. Et on verra que dans les textes que nous verrons dans les semaines à venir, eh bien, d'autres éléments qui vont, j'allais dire, faire voir ce puzzle et nous montrer réellement qui est le profil du Messie.
C'est effectivement ce qu'on verra tout au long de ces émissions, la Torah expliquée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces textes et de ces échanges autour de ces textes sur le site du Berger d'Israël, www.lebergerdisrael.org. Dans deux semaines, on sera toujours dans le livre de la Genèse, toujours au chapitre 3, mais cette fois-ci au verset 21.
Oui, il s'agit là d'un très court verset, mais qui montre peut-être de manière assez anecdotique comment Dieu finalement entend réellement non seulement faire grâce à cette humanité, mais aussi manifester sa justice. Et je crois que ça, c'est aussi important de voir un peu cet élément du puzzle dont j'ai parlé tout à l'heure se mettre en place et nous montrer réellement comment Dieu veut sauver cette humanité.
Merci Guy, merci Benjamin. Retrouvez le thème et les questions du jour sur le site internet www.lebergerdisrael.org. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.